France Inter. .fr.
Le journal Yves Decamps. Yves, bonjour.
Bonjour. Les contrats aidés ont-ils du plomb dans l'aile? Ce sera l'un des débats de la rentrée. Leur nombre sera diminué d'un tiers cette année au grand dam des communes qui disent en avoir besoin pour bien assurer notamment la rentrée scolaire. Invité de ce journal, André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France. La police de proximité fera son retour d'ici la fin de l'année. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui laisse sceptiques les syndicats de police. Pour les Républicains, c'est inefficace. Une bonne nouvelle, en revanche, pour un ancien directeur général de la police nationale. Dans ce journal également, Mayotte à sec, après bientôt une semaine de grève chez Total. Des producteurs de fruits et légumes du Lot-et-Garonne qui font de la vente directe dans Paris. Des cas de rougeole en Ardèche, 4 personnes hospitalisées. Et puis du rugby féminin en prime time sur France 2 ce soir. C'est une première. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves.
Il pleut sur le Nord-Ouest.
Oui, une perturbation pluvieuse s'est infiltrée sur le pays, apportant un ciel chargé de la Bretagne au Poitou jusqu'au bassin parisien et aux Hauts-de-France. Les pluies sont actuellement plus marquées entre le Morbihan, la Basse-Normandie et le Pas-de-Calais, mais aussi entre l'Avesnois et les Ardennes. Cet après-midi, les nuages vont s'étirer jusqu'à la Meuse, au Berry et à la Charente, et le temps pluvieux concernera le quart nord-ouest. Près de la Manche, un temps plus variable va se mettre en place avec quelques trouées, mais aussi un risque d'averse. En revanche, partout ailleurs, c'est du beau temps pour cet après-midi, avec un ciel voilé vers le nord-est et un franc soleil, du Jura aux Alpes et au pourtour méditerranéen jusqu'en Aquitaine. Quelques nuages vont pousser sur les Pyrénées, pouvant très localement aller jusqu'à l'averse sur l'Ariège et les Pyrénées orientales.
Plutôt frais sous la pluie, mais chaud ailleurs.
Oui, prévoyez seulement 21 degrés au Havre, à Brest et à Arras, 23 degrés à Nantes et Charleville-Mézières et 25 degrés pour Tours, Paris et Reims, mais il fera 29 degrés à Strasbourg, Bordeaux et au Cap d'Aille, 32 degrés à Lyon, Bastia et Albi, 34 à Marseille et Valence, et on ira jusqu'à 37 degrés entre le Gard et l'Hérault.
Et 71% des nappes phréatiques ont encore un niveau d'eau bas, voire très bas. La situation s'est améliorée dans l'ouest et le sud-est. En revanche, des points noirs persistent dans la vallée du Rhône et le nord-est de la France. Voilà, c'est le dernier bilan du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière.
France Inter.
Bon, pour commencer, on se souvient de cet enfant d'Alep en Syrie, évacué par les secouristes, hagard, abasourdi sur le siège d'une ambulance. L'image avait fait le tour du monde. Cet enfant, c'était pour le département d'État américain le vrai visage de la guerre, le symbole des horreurs commises par l'aviation russe qui continuait à bombarder la ville. Un an plus tard, Alep est revenu sous le contrôle de Bachar el-Assad et le petit Omran est devenu le symbole souriant du régime. Omran, ou comment on utilise l'image d'un enfant, Claude Guibal.
Des yeux fixes dans un petit visage couvert de sang et de poussière. Image terrifiante qui fait en quelques heures d'Omran Dakhnich, 4 ans, l'incarnation de millions de civils syriens brisés par la violence du conflit. À Damas, Bachar el-Assad réplique, l'image, dit-il, a été trafiquée de la propagande au profit de ceux qu'il qualifie de terroristes. Ce n'est qu'en juin dernier qu'Omran refait surface. Cela fait plusieurs mois que l'armée syrienne a repris le contrôle d'Alep. Le petit garçon, souriant, apparaît dans les bras de son père dans une rafale d'interviews accordée exclusivement à des médias favorables au régime syrien, la presse russe et iranienne et la chaîne pro-gouvernementale Al-Mayadine. Il affirme que l'opposition a instrumentalisé son fils, dit qu'on lui a proposé de l'argent pour nuire au régime, assure avoir refusé toutes les propositions de vivre à l'étranger, aux États-Unis ou en Turquie. Très heureux, explique-t-il, de pouvoir vivre en sécurité à Alep-Ouest. Depuis, aucun autre média n'a pu reparler au père d'Omran, enfant icône écartelé entre deux Syries qui continuent à se déchirer.
Claude Guibal, de la Syrie à Levallois, une semaine après l'attentat contre des militaires, un proche du suspect, toujours à l'hôpital, a été arrêté hier soir à Marseille. Un homme qui aurait pu apporter une aide logistique à Amou Ben Latrèche avant qu'il ne fonce avec sa voiture sur des soldats de l'opération Sentinelle. À ce stade, en tout cas, rien ne permet d'affirmer qu'il avait connaissance du projet terroriste. Et puis 3 ans de prison, dont 2 fermes pour apologie du terrorisme. C'est une ancienne candidate d'un concours de beauté que le tribunal de Montpellier a condamnée pour avoir fait allégeance à Daesh et appelée au djihad. La jeune femme de 26 ans, convertie à l'islam, a reconnu s'être laissée endoctriner. Elle est une victime, a d'ailleurs plaidé son avocat, qui conteste le choix de l'emprisonnement. La détention étant, dit-il, un lieu de radicalisation. Et puis, à ce même chapitre également, 2 700 000 euros, c'est ce qu'a coûté la destruction des mausolées de Tombouctou, dans le nord du Mali, en 2012, selon les estimations de la CPI, la Cour pénale internationale, la Cour qui a ordonné ce matin des réparations individuelle, collective et symbolique. 1 euro d'amende pour le gouvernement malien et pour la communauté internationale, mais 2,7 millions donc pour le responsable djihadiste Ahmad Al-Fakk Al-Mahdi, qui n'a bien évidemment pas les moyens de payer. Et donc, Que peut-il se passer? Réponse avec Karine Bonneau, responsable de la justice internationale à la FIDH, la Fédération des droits de l'homme. Elle est au téléphone de Nathalie Hernandez.
Effectivement, M. Lamadi ne pourra pas payer les réparations individuelles ou collectives auxquelles il a été condamné. Mais il existe au sein de la Cour pénale internationale un fonds qui a été créé pour ces situations-là, justement, qui reçoit des contributions volontaires des États ou d'autres entités individus, et donc qui a suffisamment de ressources pour mettre en œuvre les réparations. Les réparations devront être financières pour les gardiens des mausolées qui ont été détruits, dont la vie dépendait justement de l'entretien et de leur présence au sein des mausolées. Et puis d'autres réparations collectives que le fonds et la société malienne doivent définir maintenant, qui peuvent prendre la forme, par exemple, de cérémonies d'hommage, de programmes éducatifs sur l'importance de l'héritage culturel, de petits programmes de microcrédit aussi pour aider les personnes à Tombouctou à vivre. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Si effectivement Al-Mahdi avait à recouvrir d'importantes sommes d'argent, il devrait rembourser la Cour pénale. Ouais.
À voter, les militants de La République En Marche avaient jusqu'à minuit pour approuver ou rejeter les statuts du tout nouveau mouvement. 26 pages qu'ils ont reçues par mail, des statuts que continuent à contester une partie des 220 000 inscrits, les jugeant trop centralisés. Un début de fronde qui ne fait pas d'eux des frondeurs, mais c'est à prendre en considération sans doute pour un mouvement qui veut être un parti et préparer la suite. Audrey Morelato.
Ah oui, les voix discordantes commencent à se faire entendre, alors que le résultat du vote sur les statuts ne laisse pas beaucoup de place aux suspects. S'il devrait être adopté assez largement, on le saura aux alentours de 16h. Seulement voilà, il y a des responsables locaux qui ne veulent pas devenir les bons petits soldats du parti. Ce n'est pas pour ça qu'ils avaient signé au départ. Et ce qui les inquiète, c'est qu'ils n'arrivent pas déjà maintenant à communiquer avec les hautes instances. D'ailleurs, ils ont même du mal à savoir qui dirige vraiment le parti. Alors c'est vrai que les potentiels cadres d'En Marche travaillent pour beaucoup dans les ministères ou à l'Assemblée maintenant, et que la direction a été un peu laissée à l'abandon. Mais quoi qu'il en soit, ces militants se sentent laissés de côté. C'est au choix, me disait l'un d'entre eux. Soit c'est un manque d'organisation, soit c'est un manque de respect. Mais dans les deux cas, c'est très grave.
Les contrats aidés en question, en politique également. On a vu que la plupart des communes de La Réunion avaient décidé de repousser la rentrée scolaire de 4 jours, compte tenu de la baisse du nombre de ces contrats aidés, autrement dit subventionnés par l'État, et qui leur permettent à ces communes de recruter des agents de restauration ou d'entretien pour les écoles. Pour le gouvernement, ces contrats aidés mis en place depuis de nombreuses années ne sont qu'un emplâtre sur une jambe de bois, coûteux et inefficace, a déjà expliqué notamment la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il ne serait absolument pas source de création d'emplois, Delphine Simon.
Oui, ces emplois aidés, le gouvernement veut les réduire. 280 000 devaient être financés cette année pour un budget de 2,5 milliards d'euros. Mais selon Bercy, les deux tiers de l'enveloppe ont déjà été dépensés par le précédent gouvernement. Malgré un petit coup de pouce cet été, 13 000 contrats en plus. Il y a un vrai problème de renouvellement. Depuis le début du mois, Pôle emploi prévient les collectivités ou les associations que les crédits sont coupés. D'où l'inquiétude de certains précaires qui ne savent pas si leur emploi sera renouvelé. Des emplois subventionnés, exonérés de charges, très présents dans certains secteurs, vous l'avez dit, l'éducation en emploi, 70 000 dans les cantines ou l'aide aux enfants handicapés, d'où l'inquiétude qui émerge en cette rentrée. Cela dit, l'école pourrait être épargnée. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a désigné 4 secteurs prioritaires comme l'outre-mer, l'éducation, donc l'urgence sanitaire et sociale. En revanche, il n'y aurait plus aucun contrat aidé dans le secteur marchand. Muriel Pénicaud qui juge ses emplois peu efficaces contre le chômage. Dans le secteur public, les contrats aidés débouchent rarement sur un emploi durable, selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Moins sévère, la DARES, la direction des statistiques du ministère du Travail. Elle rappelle que dans les entreprises, l'insertion des bénéficiaires est de 7 sur 10. En tout cas, difficile d'y mettre fin brutalement en période de chômage de masse et alors que les crédits des collectivités territoriales sont eux aussi réduits.
Invité de ce journal, André Léniel, maire PS d'Issoudun, vice-président de l'Association des maires de France. Bonjour André Léniel.
Bonjour.
Alors vous avez écrit à Muriel Pénicaud pour lui faire part de votre inquiétude. La suppression de nombreux contrats aidés aurait pour les communes, avez-vous écrit, des impacts négatifs. Alors lesquels précisément?
Oh, énormément. Vous savez, les emplois aidés, c'est à la fois un système d'insertion, puisque ça permet à des jeunes d'avoir un premier goût du travail, ça permet de les insérer, ça permet de les former. Et puis, bien entendu, pour le fonctionnement des services publics locaux. Il a été évoqué il y a quelques instants tout le secteur de l'éducation. C'est vrai que les emplois aidés, c'est aussi bien l'encadrement des personnes handicapées dans le cadre de l'éducation, c'est aussi tout ce qui concerne les activités périscolaires, c'est l'encadrement des centres de loisirs, c'est véritablement un endroit où il est nécessaire d'avoir ce type de contrat. On ne peut pas le faire avec des contrats à plein temps et il faut le faire pour permettre que soient bien encadrés les enfants, mais aussi que ce premier contact avec les métiers soit un débouché. Je ne partage absolument pas le point de vue de la ministre du Travail. C'est un système qui est à la fois important sur le plan de l'insertion, donc de la capacité à s'insérer dans le monde du travail et de la société.
Mais c'est à l'État de financer les recrutements des collectivités locales ?
Alors, le financement se fait d'une part par l'État, mais d'autre part aussi par les collectivités territoriales qui en financent une partie. Mais c'est aussi tout le secteur associatif qui est concerné. Il faut savoir que la plupart des associations, pour aider à l'encadrement, pour aider aux activités, a besoin de ce type de contrat. Et bien entendu, les associations locales ne sont pas en capacité de le faire sur des contrats normaux. Et je crois qu'il y a là un message important à passer. C'est l'insertion, c'est l'activité, c'est l'encadrement de la jeunesse et c'est le pied à l'étrier pour tous ceux qui sont éloignés de l'emploi.
Alors ce dispositif est très ancien, André Léniel. S'il avait fait ses preuves en termes d'emploi, ça se saurait, ça se verrait.
Mais ça le fait. Au total, quand on prend ceux qui sont dans le privé et ceux qui sont dans le public, les dernières statistiques d'il y a 2 ans, parce que vous savez qu'il y a toujours un temps de retard pour les statistiques, c'était 57% qui débouchaient sur un emploi. C'est considérable. Surtout quand on se rappelle que la plupart de ces jeunes sont éloignés de l'emploi lorsqu'ils sont dans ces premiers contrats d'accompagnement. Donc je crois qu'il y a des résultats. Et puis je répète, si on regarde le coût, c'est vrai que ça peut paraître important, 3 milliards, mais en réalité ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui sont ainsi remis dans le circuit social, remis dans le circuit du travail et qui apportent une véritable aide pour mieux vivre dans chacune de nos collectivités et pour que le monde associatif puisse tourner correctement. Je pense que c'est au contraire un très beau dispositif. Si on attend que ça soit simplement d'engranger dans l'emploi sans autre forme de procès, alors c'est une vision totalement technocratique que nous réfutons.
André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est le taux de chômage qui poursuit sa décrue, 0,1 point de moins au deuxième trimestre, s'établissant aujourd'hui à 9,2% de la population active, soit le niveau du début de 2012, avant l'élection de François Hollande. Au total, l'INSEE a compté 2 600 000 chômeurs en métropole, 2 800 000 dans la France entière. L'autre débat provoqué par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, c'est le retour à la fin de l'année d'une police de proximité telle que Lionel Jospin en son temps l'avait voulu, police supprimée par Nicolas Sarkozy et qui s'appellera désormais police de la sécurité du quotidien, ce qui pour la droite ne servira à rien. La police de proximité a fait la preuve de son inefficacité, dit-on notamment du côté des Républicains. Les syndicats de policiers plutôt sceptiques s'interrogent sur les moyens de la mettre en place. Pour Patrice Bergougnou, en revanche, l'ancien directeur général de la police nationale, c'est une bonne nouvelle.
La police au quotidien ou la police de proximité, quelle qu'en soit l'appellation, c'est une police qui se met au service de la population, qui met au centre de ses préoccupations les besoins de la population, davantage que les besoins de l'État. Cette police est à mes yeux indispensable au moment où l'on assiste dans certains quartiers à des phénomènes de radicalisation, mais elle est surtout indispensable, cette police de proximité, d'abord pour renforcer le lien de confiance entre la police et la population, parce qu'il s'est atténué, estompé, effectivement, et dans certains quartiers, disparu. Alors que, abandonnés par les services publics, certains de ces territoires sont aujourd'hui, entre guillemets, défendus par des groupes de délinquants qui tentent d'empêcher toute présence étrangères, externes au quartier. Ce sont les caillassages de véhicules de police, les caillassages de véhicules de pompiers et, plus inadmissible encore, les agressions violentes contre les policiers.
À Mayotte, une grève chez Total qui provoque une paralysie totale. Une partie des salariés a cessé le travail depuis bientôt une semaine pour les conditions de travail et les salaires. Et aucun accord n'a encore pu être trouvé, Laura Lavenne.
Des files interminables de voitures, pare-choc contre pare-choc, et des habitants comme Abby complètement excédés.
La situation elle est assez catastrophique, il faut le dire. Nous, personnellement, on n'a plus d'essence. On est bloqué, on marche, certains sont à vélo. Tout le monde veut prendre un taxi parce que tout le monde s'est déplacé. Donc là, le prix des taxis est doublé. Donc là, c'est tendu. C'est un ras-le-bol de cette situation. Parce qu'au final, que des salariés crèvent pour leurs droits, bah oui, on comprend. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est cette situation de monopole qui, encore une fois, nous pénalise totalement.
À Mayotte, toutes les stations-service appartiennent à Total. Alors quand une minorité de grévistes, 30% seulement, soit une quarantaine de salariés, sont en grève, c'est tout le département qui en subit les conséquences. Et pour être sûr de se faire entendre, les syndicats ont installé leur piquet de grève à un endroit stratégique, l'entrée du dépôt des carburants. C'est le passage obligé de tous les camions-citernes qui approvisionnent l'île. Résultat, la préfecture a temporairement interdit de remplir des bidons et limiter l'accès aux stations. Seuls les véhicules prioritaires, les camions de pompiers, d'ambulances ou de police peuvent faire le plein.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
La campagne à Paris, c'est devenu une tradition chaque été pour les producteurs du Lot-et-Garonne. Une petite halte sur la place de la Bastille, au contact direct des Parisiens et des touristes. Opération de promotion des produits locaux, bien sûr, mais aussi l'occasion d'évoquer les difficultés du métier, en tout cas pour ceux qui défendent le modèle de l'exploitation familiale. Reportage Guillaume Fariol.
Tomates, prunes, nectarines.
Les commandes s'enchaînent, des dizaines de clients s'arrachent fruits et légumes. Parmi eux, André, elle a du mal à traîner derrière elle son cabas à roulettes rempli à ras-bord.
J'habite au 10e étage, hein. J'ai dit à mon gardien, je vous préviens, je vais sur la place de la Bastille, arrangez-vous que les ascenseurs fonctionnent. Là, regardez, mon caddie est plein, j'en ai que pour 12,50.
70 centimes pour un kilo de tomates, 45 pour un kilo de prunes, 2 à 3 fois moins cher qu'en magasin. Les agriculteurs vendent à ce qu'ils appellent le juste prix, un tarif rentable mais sans toutes les marges de la grande distribution, des marges dénoncées par Sandrine, productrice de fruits.
La différence de prix en fait entre le prix d'achat pour les agriculteurs et le prix au consommateur, les marges sont énormes. C'est multiplié pour vous, consommateurs, par 4, 5, quoi. C'est énorme.
Le message est bien reçu par les consommateurs. Pour Cathy, acheter un produit ici, c'est un acte engagé.
Je tiens absolument à valoriser la production des agriculteurs français pour lesquels souvent la grande distribution casse les prix. C'est notre économie quand même, on a une très belle agriculture donc je tiens à la valoriser.
Quelques heures après l'ouverture du stand, les cagettes sont vides. Sans exception, tout est parti. Retour dans le Lot-et-Garonne sans un seul invendu. Pour les agriculteurs.
Et retour vers le soleil puisque ce marché se sera déroulé sous la pluie. L'évacuation d'une discothèque du Cap d'Agde. Au petit matin, l'explosion d'une bouteille de gaz tout près du bâtiment où se produisait Maître Gims, ce qui n'a rien à voir, a fait un blessé léger. Il n'y a eu aucun dégât. 6 nouveaux cas de rougeole dans le Nord Ardèche. 4 personnes ont dû être hospitalisées au début de ce mois. Elles sont maintenant hors de danger. L'Agence régionale de santé rappelle que la rougeole est une maladie très contagieuse et qu'il est donc préférable de se faire vacciner. Mélanie Tournadre.
2 adultes et 4 enfants ont été touchés, notamment des enfants en bas âge. Vincent Ronin est médecin à la veille sanitaire de l'ARS.
Sur ces 6 cas, il y en a quand même 4 qui ont bénéficié d'une hospitalisation. Et à ce jour, tout le monde a pu rentrer à domicile sans souci, avec des consignes de surveillance aux parents. On n'a pas beaucoup d'inquiétude de ce côté-là.
Pas d'inquiétude aujourd'hui concernant cette épidémie, mais un conseil de l'ARS. Au moindre signe de fièvre et de boutons dans les environs d'Ardoye, il faut consulter. La rougeole est une maladie très contagieuse.
On peut se retrouver jusqu'à 15-20 personnes contaminées autour d'une seule personne. Comme il n'existe pas de traitement curatif spécifique de la rougeole, quand les atteintes sont des fois trop sévères, on peut même avoir des décès. Au niveau national, il y a eu encore un décès récemment.
Sur les cas avérés de rougeole à Ardoye, aucun des malades n'était vacciné. Et c'est bien dommage pour le médecin Vincent Ronin. La vaccination pour lui est primordiale et c'est le moment de le faire avant la rentrée scolaire.
Il ne faut pas attendre le sac et le ressac de la mer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un événement pendant l'été. Bon, ça sert à rien de donner le bâton pour se faire battre à la rentrée, c'est de vous vacciner, quoi.
En Ardèche, autour de 70% des habitants sont vaccinés contre la rougeole. C'est 10% de moins que la moyenne nationale.
En rappelant que le gouvernement veut rendre obligatoire 11 vaccins, dont celui justement de la rougeole. En sport, c'est une première du rugby féminin en prime time pour parler français. Et sur le service public, s'il vous plaît, Irlande-France, le troisième match des Françaises en Coupe du Monde. Des Françaises qui sont en quête d'un premier titre mondial et qui ont gagné très facilement d'ailleurs leurs deux premiers matchs contre le Japon et l'Australie. France 2 a donc eu la bonne idée de leur consacrer sa première partie de soirée. Fanny Lechevestrier.
Céline Bourillot, la vice-présidente de la Fédération française en charge de rugby féminin, n'hésite pas à parler de victoire.
C'est la preuve que les filles font un bon parcours, c'est la preuve qu'il commence à y avoir un engouement sur cette Coupe du Monde. Ça, on le doit aussi, hein. On le doit aux deux matchs qu'elles font contre le Japon et contre l'Australie. Le travail paye, quoi.
Une première reflet aussi d'un engouement grandissant pour le rugby féminin qui a pour déclic la Coupe du Monde 2014 organisée en France où les Bleus avaient terminé troisième. C'est à partir de ce moment-là que Safie Ndiaye, membre du 15 tricolore depuis 2012, a clairement vu la différence.
Toute l'équipe de France et même la fédération a compris qu'il y avait vraiment un engouement pour l'équipe de France féminine. C'est vrai qu'on a une nation qui a beaucoup de téléspectateurs, on a une nation aussi qui a beaucoup de spectateurs même dans les stades pendant le tournoi destination, tous les matchs sont pleins.
Une dynamique qui s'inscrit aussi dans un engouement plus large pour le sport féminin. Ainsi, à l'Euro de football en juillet dernier, les Françaises ont régulièrement rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs pour près de 20% de part d'audience. Alors le rugby féminin n'en est pas encore là. Dimanche dernier, concurrencé par les mondiaux d'athlétisme et PSG Guingamp en football. Les filles, pourtant opposées à l'Australie, n'ont rassemblé que 590 000 téléspectateurs. Mais signe de son potentiel économique certain, World Rugby organise la semaine prochaine à Belfast une grande conférence pour accélérer son développement à l'international.
Irlande-France sur France 2, 20h45. En foot, le Real, décidément trop fort pour le Barça, qui n'a plus Neymar. Mais Madrid n'avait pas Ronaldo, suspendu pour 5 matchs. Et les Madrilènes ont quand même remporté haut la main le match retour de la Super Coupe d'Espagne, 2-0, dont un but de Benzema.